Chapitre 2. Mimard avait l'allure patente d'un paysan, un homme têtu, borné, avare de ses sous, et, selon les circonstances, obséquieux ou grossier. Comme tant d'autres, il était venu à Paris pour faire fortune, mais la chance ne lui avait pas souri. Depuis des années, il travaillait à la gare du Nord, sans autre espoir pour l'avenir qu'une retraite. Son service de porteur l'obligeait 15 jours par mois à veiller. Cette quinzaine-là, il avait de grandes journées de loisirs. Les fanfaronnades des jeunes gens qui couraient le guillidou l'amusaient. Ces gosses. Ah, ils ne jalousaient pas leurs prouesses. À son âge, on restait à l'affût dans l'hôtel. Depuis 15 ans qu'il logeait en meublé, il avait de l'expérience et il trouvait toujours moyen de faire des conquêtes. Deux passions se partageaient sa vie, les cartes et les femmes. Il jouait à la manille avec les amis dès qu'il rentrait du turbin. Dans le quartier, sa réputation de bon joueur était solide. On lui enviait son habileté et une chance de cocu qui lui permettait de boire à sa soif sans jamais débourser un sou. Son travail de porteur ne lui donnait aucun souci. Il était fier de ses succès chez les bistrots. Tous les copains se le disputaient comme partenaire. Mais dès qu'il voyait passer un jupon, il lâchait les cartes. Le destin l'avait gratifié d'un teint de tomate mûre. Ses petits yeux clignotaient, son cou, trop court, s'enfonçait dans ses épaules. L'uniforme du chemin de fer ne l'avantageait pas. Mais il savait supporter patiemment les rebuffades ou les moqueries. Avec une assurance de mâle obtus et sensuel, il guettait la proie qu'il s'était choisie, et son heure venait toujours. Il ne s'attendait plus à poursuivre des pucelles. À ce petit jeu-là, des gars perdaient leur temps. Non, entre 30 et 50, voilà les femmes qui lui convenaient. Petites, boulottes ou efflanquées, blondes ou brunes, cuisinières, bonniches, balayeuses, il ne regardait pas de si près. Lui, en fait d'amour, ne comptait que la bagatelle. La laideur de ses maîtresses, leur linge douteux, leurs habitudes crapuleuses, n'étaient pas pour l'intimider. Il se contentait des laissés pour compte, comme ça, il ne risquait pas de rencontrer un rival, ni de se mettre un fil à la patte. Il se rasait, changeait de linge une fois par semaine, et tous les jours de l'année, portait, enfoncé sur les yeux, sa casquette graisseuse de cheminot. Quand il était de repos, il allait à l'affût. Il s'embusquait dans un renfoncement, de couloir, sur le palier ou à la sortie des water. Il avait bien calculé son coup. La femme passait devant lui. Il sortait de l'ombre, il lui barrait la route. « Eh, la petite, on passe pas sans me donner un béco !» Presque toujours, il gagnait la partie. En avait-il ébauché des liaisons dans ses couloirs? Si sa victime était mariée, le soir, dans la boutique, il invitait le mari à faire une manille. Le trio s'installait gaiement autour d'une table, et en grand seigneur, Mimard offrait une tournée. Il lorgnait sa voisine, la frôlait du coude, s'échauffait, enfin lui faisait du pied. « Oh, j'ai pas de veine ce soir !» disait-il à son partenaire. Mais il s'en foutait. Une odeur de femme douceâtre le grisait. Des images obscènes lui brouillaient les yeux. Une bouffée de sang lui montait au visage. Et ouvrant sa chemise, il découvrait son cou solide de porteur. « Malheureux au jeu, heureux en amour » pensait-il. La petite Volovitch s'est laissée séduire. Son époux est absent aujourd'hui. Elle a donné à Mimard un rendez-vous. L'oreille collée à la porte, elle l'attend. Il est 10 heures. Mimard en pantoufles se glisse silencieusement dans le couloir. Faut se méfier des curieux ici. Et arrivé devant numéro 3, il toussote. La porte s'ouvre. Le 3, oh, ça lui rappelle une autre aventure. Cette fois-là, sa maîtresse était une poissonnière rouge et soufflée. L'inverse d'aujourd'hui. La Volovitch est plate comme une punaise. Mimar s'assied. Cette garce de René, grogne-t-il, elle faisait celle qui balaye. J'ai dû m'enfermer au water pour la dépister. Oh, le jour où je pourrais la faire foutre dehors. René a toujours repoussé ses avances. Bois un coup en attendant, répond Madame Volovitch. Elle lui tend un verre de vin rouge, puis les yeux brillants, s'assied sur ses genoux. Il la tripote, la pince, lui écrase la bouche de ses lèvres violettes. Soudain, elle s'échappe de ses bras pour aller tirer les doubles rideaux. Laisse donc, dit-il, personne ne peut nous voir. Lui, le grand jour ne l'effraie pas. Il se lève, embras de chemise, quitte ses bretelles pour être plus à l'aise. Il attrape la femme par la taille et vlan la renverse sur les draps sales. Elle pousse de longs soupirs. Il lui pose sa main calleuse sur la bouche. Ferme ça, René travaille à côté. Mimar se relève, débraillé, le corps tout moulu. Il va à la fenêtre. Des autos descendent le quai en bas chez la touche. Les cochers changent leur camion. Sa poitrine se dilate. Je me la coule douce, moi, grommelle-t-il en lançant un regard sur sa maîtresse. Il s'approche de la table, saisit le litre de rouge. Il se sert une bonne rasade. Le couvreur était encore un bleu dans le métier du bistrot. Il ne savait pas se débarrasser des raseurs qui le tapaient d'une tournée, ni des ivrognes qui s'attardaient sur le zinc. Chaque soir, avant la fermeture, venait échouer chez lui un poivreau, cocher ou débardeur. Eh bon bras, faut aller se coucher. Encore un petit verre, patron. Le couvreur soupirait, remuait quelques chaises, tapait dans ses mains. Enfin, avec un geste de colère, regardez l'heure, nom de Dieu, minuit! Le poivreau, appuyé au comptoir, crachait sur le carrelage et continuait son soliloque. Le couvreur, qui craignait les histoires, changeait de tactique. Il n'y a plus un chat, vous voyez bien, alors vous reviendrez demain matin. Il poussait l'ivrogne dehors et fermait vite la porte comme s'il venait d'échapper à un danger. Le couvreur buvait le moins possible. Quelques apéritifs suffisaient pour l'étourdir, lui enlever le goût du travail. Mais comment, sans faire injure à ses habitués et compromettre son commerce, refuser les tournées qu'on lui offrait? Il s'était bien fabriqué un breuvage inoffensif à base de sirop. Malheureusement, les clients ne laissaient pas tirer sa bouteille de sous le comptoir. Sur ce chapitre-là, il ne plaisantait pas. Oh, vous a pas invité à boire de la queue de cerise, ni du pipi de rossignol. Le couvreur cédait en ronchonnant. Puis, à son tour, il lui fallait remettre ça. Et il s'exécutait sans entrain à la surprise des clients. Ah, s'ils avaient été bistrots à sa place. Les samedis, soirs de grande manille, le couvreur finissait lui aussi par s'enivrer. Louise s'attristait à le regarder boire, mais elle se taisait et pensait, c'est le commerce. Elle ressassait toutes ses déceptions. La saleté de la maison lui soulevait le cœur. Elle nettoyait les chambres une à une, mais pour remédier aux négligences de Madame Goutet, il lui fallut une année de travail. Elle se sentait trop faible pour sa tâche et souffrait de ne plus être la ménagère ponctuelle, méticuleuse d'autrefois. Elle avait à vaincre l'insouciance des locataires, qui ne méritaient d'ailleurs pas tant de peine et d'efforts. Depuis 2 mois, elle sentait un point douloureux à chaque aspiration. Oh, ne se plaignait jamais. Tout le jour, elle domptait sa souffrance. Mais le soir, énervée par le sans-gêne des clients qui s'installaient bruyamment dans la boutique, se réfugiaient au fond de la cuisine et, vaincus, se mordaient les lèvres pour ne pas crier. Et elle mettait tout son orgueil, un orgueil de paysanne, à cacher son mal. Un matin, comme elle l'avait à genoux l'entrée de l'hôtel, un cri de douleur lui échappa. Elle rentra en gémissant, tomba sur une chaise. Lorsqu'elle respirait, son visage se tordait de souffrance. Le couvreur, affolé, lâcha son travail et courut chercher le médecin. Louise avait une pleurésie. Il fallut aussitôt lui faire une ponction. Étendue dans son lit, elle souffrait silencieusement. La maladie, qu'elle était impuissante à combattre, s'emparait d'elle. De temps à autre, elle regardait les murs nus, la fenêtre, où elle avait eu le tort, songeait-elle, de ne pas poser de double rideau. Elle pensait à son ouvrage. Parfois, en souriant, elle disait à son fils: « Mais tu vois, je ne me suis pas écouté. » Une sorte de fierté animait son triste visage. Le couvreur s'échappait de la boutique pour lui donner des nouvelles. Il fallait qu'elle fût bonne, que l'ouvrage de René ne laissât pas à désirer. Rassurée, elle consentait alors à dormir quelques heures. Au bout d'une semaine, elle songeait déjà à reprendre son travail. Dans cette lutte contre le désordre, l'usure, la poussière, jamais elle ne se ménagerait. Ses soucis la poursuivaient jusque dans son lit. Elle aimait que René vînt lui parler de la maison, parce que les hommes, pour les détails de ménage, ça n'y comprend rien. René la mettait au courant. Louise l'écoutait avec un plaisir secret, puis, comme un chef, dirigeait les opérations dont l'hôtel devait sortir remis à neuf. « Vous avez changé les draps du 28, René ? Ils étaient sales. Bon, le 28, c'était un grand cochon. Demain, faudra me lessiver les couloirs. » Son mari intervenait, mais elle lui coupait la parole. « Laisse-nous. Avec moi, faut que tout marche à la baguette. Oh, si j'étais plus là !» Elle souriait. Des locataires venaient la voir, certains même apportaient des fleurs. Ces marques de sympathie la touchaient beaucoup. Enfin, elle n'y tint plus. Elle se leva, en dépit du médecin qui voulait la clouer au lit, en dépit de l'angoisse de son mari qui, partagé entre la joie et la peur, ne se sentait pas la force de lui résister. Louise examina la cuisine où les casseroles pendues brillaient dans l'ombre comme des planètes au fond d'un ciel. Par un geste qui lui était habituel, elle passa la main sur les meubles pour y chercher de la poussière. « C'est propre, » dit-elle à René, qui rougissait. Quand elle entra dans la boutique, la lumière l'éblouit. Des consommateurs entouraient le comptoir. Elle les reconnut et leur serra la main comme à des amis. Julot s'écria: « Ah, ma tante, vous nous enterrez tous !» Dans cette exclamation, elle retrouvait la couleur de ses anciennes habitudes. Derrière le comptoir, son mari et son fils lui souriaient. La rumeur vivante du canal lui semblait emporter sa maladie comme un mauvais rêve. Elle patienta encore 2 jours, puis n'y tenant plus, elle recommença à faire les chambres avec René. Un samedi de grand nettoyage, René, à genoux, lavait une chambre. Elle s'arrêtait de temps à autre pour souffler, puis mollement reprenait son travail. « Ça n'a pas l'air d'aller, » dit Louise. Sa bonne se plaignait de maux de tête et de vertiges. Tout en époussetant les meubles, Louise la regarda du coin de l'œil. « Elle file à mauvais coton, » pensa-t-elle. René se redressa et voulut tirer le lit. Ses forces la trahirent. Elle porta la main à son ventre avec un gémissement. Louise s'inquiéta. « Voyons, êtes-vous malade ?» René ne répondit pas. Adossée au mur, elle baissait la tête. Brusquement, elle cacha son visage défait dans ses mains et se mit à sangloter. Louise s'approcha. Elle avait les gestes simples et compréhensifs d'une mère. Mais René eut un mouvement de recul. Son tablier se dénoua. Alors, pour la première fois, Louise remarqua la taille informe de sa bonne. Leurs regards se croisèrent. René baissa les yeux. Après un court silence, Louise murmura « Mais pourquoi vous cachez-vous de moi? Ne craignez rien, je vous garderai ici. » Et d'une voix affectueuse « N'ayez pas honte, ma petite, ces histoires-là arrivent. Je pense que Trimaud va vous épouser. » René secoua la tête. « Oh, il s'agissait bien de mariage. Pierre ne l'aimait plus. » Et pourtant, que n'avait-elle pas imaginé pour le séduire? Chaque soir, comme il était dégoûté du restaurant et lui faisait des chatteries. Une fine gueule, son Pierre. D'autres fois, elle lui offrait du vin chaud avec du citron, ou bien elle descendait dans la boutique acheter du rhum pour lui préparer un grog. Il aimait prendre une bonne cuite l'hiver avant de se coucher. Elle l'avait rendu exigeant et difficile. La vie à deux use le cœur d'un homme. Pierre ne lui parlait plus jamais d'amour. Le dimanche, lorsqu'elle voulait sortir avec lui comme autrefois, il refusait pour aller jouer à la manille. Elle le regardait partir, les larmes aux yeux. Elle gagnait bien sa vie et n'était pas à la charge de son amant. Au contraire, hormis quelques pourboires, elle lui donnait tous ses gages. Les soirs de paye, Pierre s'adoucissait. Elle venait s'asseoir sur ses genoux comme une gosse. Il devait prendre dans son corsage l'argent qu'elle lui destinait. « plus bas, » disait-elle avec un éclat de rire. « Ça y est, tu brûles. C'est pour qui ?» Elle se jetait à son cou. « Pour mon Pierre !» Elle lui mordait les lèvres, le dévorait de baisers rapides, lui soufflait à l'oreille. « Je te mangerai !» Trimaud, un peu étourdi de ses transports, mettait l'argent dans sa poche, puis rendait à René ses caresses. Il l'emportait, toute palpitante, sur le lit. Elle s'abandonnait à une sorte de mirage où les plaisirs de l'amour se liaient à ceux d'une vie régulière et douce. L'argent filait et l'humeur de Trimaud s'assombrissait vite. René attendait ses baisers comme une aumône, mais il n'ouvrait la bouche que pour crier. Chaque soir, il allait baguenauder avec des copains. Elle n'était pas jalouse de ses relations et d'ailleurs elle ne pouvait pas l'empêcher de sortir. Elle restait dans sa chambre avec ses souvenirs. Elle songeait à son amant, à leur vie commune où tout les séparait. Elle enviait les femmes mariées. Il lui manquait quelque chose à elle. L'âge, la fatigue creusaient déjà ses traits. Elle soupirait « Je suis trop laide !» Regardait ses mains noires et crevassées. Enfin, après un dernier coup d'œil sur le réveil, elle se couchait. Un soir, elle se décida à faire comme Trimaud, à garder pour elle le salaire de son travail. Ce fut une scène terrible. « Grosse garce !» cria Pierre. « C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir tiré du fumier ?» Il la gifla, puis sortit en claquant la porte. René était habituée aux injures. Elle accepta aussi les coups. « C'est la vie !» se dit-elle. Trimaud enragea quand il la sut enceinte. « Ah non, c'est pas à son âge qu'on se laissait attacher un fil à la patte. Après tout, il n'a pas eu vierge. Et s'il la lâchait ?» Cette menace anéantissait ce qui restait de leur bonheur. La nuit, dans la chambre où tout lui rappelait un passé de discorde, René, inquiète, ne pouvait s'endormir. Son amant sommeillait. Elle sentait un abîme se creuser entre eux et un cri lui échappait dans lequel elle mettait tout son cœur. Pierre, à quoi penses-tu? Parle-moi. Oh, tu ne m'aimes plus. Fous-moi la paix avec tes boniments, j'ai sommeil. Il lui tournait le dos. René sanglotait, se cachait le visage dans l'oreiller. Comme emporté par un grand vent, ses illusions fuyaient une à une. Elle pensait à sa journée de travail. Elle se voyait lavant les couloirs, changeant les draps et les serviettes sales, trimballant des seaux dont le poids lui tirait le ventre. Jamais elle n'en finissait avec son ouvrage. Et lorsqu'elle avait le malheur de se plaindre, Trimaud la rembarrait. Il se conduisait comme une brute. Il était prêt à l'abandonner. Un soir, il ne rentra pas. Anxieuse, René courut les bistrots du quartier. Les boutiques fermaient une à une. Des copains de Trimaud s'offraient pour la consoler, mais elle ne les écoutait pas. Elle monta le faubourg du Temple, revint sur ses pas, suivit le quai désert. Il pleuvait. Elle grelottait et se sentait mourir de tristesse. Elle rentra dans sa chambre et attendit son amant jusqu'au jour. À 7 heures, un homme vint la demander. Trimaud était envoyé en province pour un travail urgent. Il réclamait sa valise. « En auras-tu pour longtemps ?» demanda René. « Bon, je ne sais pas, répondit l'homme. Allez, grouillez-vous. » Elle prépara la valise. Ses mains se crispaient sur les vêtements. Elle respirait l'odeur de Trimaud, elle le voyait dans ce costume. Quand elle eut achevé, elle murmura « Dites-lui qu'il peut revenir. » Puis, sans force, elle tomba sur le lit. À quelques jours de là, dans le couloir, René croisa Saquet, un jeune ouvrier mécanicien. « Alors, ma petite René, voilà veuve ?» Il se pencha sur elle. « Reste pas seule à ton âge !» Elle sentit passer sur son visage une haleine brûlante. Des bras lui entourèrent la taille. Elle renversa la tête et tout chavira. Saquet ouvrit la porte de la chambre, jeta un coup d'œil sur le couloir. Personne. Il entraîna René vers le lit. Le printemps est venu. Un dimanche, après avoir nettoyé sa boutique à grande eau, le couvreur, sentant les chaleurs profondes, décide de sortir la terrasse. 4 tables rondes et 8 chaises de jardin qu'on aligne sur le trottoir, sous un grand store où on lit en lettres rouges « Hôtel, vin, liqueur ». Le couvreur aime musarder dans le quartier, la cigarette au coin des lèvres. Une porte cochère sépare son hôtel de la chope des singes, une brasserie dont il admire en passant les tables de bois vernies et les fauteuils en rotin. Puis il traverse la rue de la Grange aux Belles pour jeter un coup d'œil sur les livres alignés à la devanture de la librairie du travail, des tas de bouquins, des brochures écarlates, au milieu desquelles trône un portrait de Lénine. Le couvreur ne fait point de politique. Il revient sur ses pas, regarde les photos sportives exposées à la devanture de chez Marius, un Marseillais qui fabrique des chaussures sur mesure. Il salue Marcel, le coiffeur, Cerutti, un entrepreneur de peinture, et piano arrive rue Bichat où il allume une nouvelle cigarette. Le temps de lancer un regard au bistrot du coin pour se rendre compte si les affaires marchent, et il continue sa route. Toujours la même promenade, tranquille, apaisante. Il longe l'hôpital Saint-Louis, qui date de Jésus-Christ, puis il regagne le quai de Jemmap. Des pêcheurs sont installés sur les bords du canal, au bon endroit, à la hauteur du bateau lavoir. Le couvreur s'arrête. Il fait beau. Le spectacle est distrayant. Partout, les marronniers fleurissent, de grands arbres qui semblent plantés là pour saluer les péniches. Des bateliers se démènent et parmi eux Julot s'égosille. Un peu plus haut, des montagnes de sable ou de meulière, des tas de charbon, des tas de ciment encombrent le quai. Des voitures traversent le pont tournant. Ce décor d'usine, de garage, de fines passerelles, de tombereaux qu'on charge, toute cette activité du canal amuse le couvreur. Il reste là, bâillé aux corneilles, à jouir de sa liberté et du bon soleil. Il aperçoit Achille qui hale une péniche. Un numéro, celui-là. Toujours sous. Tiens, bon Dieu pour les ivrognes, pense le couvreur, en suivant de l'œil la marche acrobatique d'Achille. Jamais il ne tombera dans la flotte. Un square entoure l'écluse. Quand le couvreur en a assez des blanchisseuses et des pêcheurs à la ligne, il va s'y reposer. Il se sent bien à son aise, l'esprit tranquille. Il s'assied sur un banc. Derrière lui s'élève le poste vigie, pavillon cubique décoré d'un drapeau et d'une bouée de sauvetage. Il contemple un instant les péniches propres et vernies, mais son regard revient toujours à la façade de son hôtel que dorment maintenant les rayons du soleil couchant. Le couvreur regagne alors sa boutique. Par les beaux jours, les locataires de l'hôtel du Nord, leur dîner expédié, descendent prendre le frais à la terrasse. Les 8 chaises sont vite occupées. Bientôt, le couvreur doit sortir tous les sièges de la boutique. Il va et vient, le seau à glace dans une main, une canette de bière dans l'autre, prête à satisfaire les caprices de chaque client. « Patron, un diabolo ! Un vitel cassis, Mimille !» Il fait bon prendre un verre sur le trottoir après une longue journée de chaleur et de travail, quand le soleil s'est couché derrière les vieilles maisons du quai de Valmy, et que, peu à peu, le roulement des voitures a fait place au bruit frais des écluses. Les réverbères s'allument, des amoureux s'étreignent dans le square, de vieilles femmes promènent leurs chiens. Les étoiles se reflètent dans l'eau sombre du canal. L'air fraîchit, un coup de vent qui vient des boulevards extérieurs apporte le murmure de la ville. C'est à cette heure-là que la touche fait atteler ses 6 voitures. Un homme crasseux, barbu, le palefrin apparaît, portant des bricoles. Il harnache les chevaux, les pousse dans les brancards. On sent que chaque geste lui coûte, que l'âge pèse sur ses épaules. Enfin, les camionneurs grimpent sur leurs sièges et font claquer leurs fouets. Hop, en route pour les Halles. Le palefrin demeure bras ballants à regarder les voitures franchir le pont. Puis il fait quelques pas vers l'hôtel. « Fini le boulot !» dit un client. Le palefrin ne semble pas avoir entendu. Il est vêtu de guenilles, une casquette enfoncée sur les yeux cache à moitié son visage. Les mains dans les poches, le chef branlant, il s'avance vers la terrasse et s'assied à l'écart. On lui sert un blanc nature et il reste là, indifférent, voûté, tenant son verre qu'il porte de temps à autre à ses lèvres sans que son visage exprime un plaisir quelconque. En face, dans le square, des vagabonds s'étendent sur les bancs pour y passer la nuit. D'un œil morne, le palefrin suit leur manège. Enfin, il se lève et regagne les écuries, sans prêter attention à personne. Assis à la terrasse, les coudes sur la table, devant un Bordeaux, le père de Borger regarde s'éloigner le palefrin. Cette démarche de vieillard, ses épaules voûtées, sa propre image. Un geste de protestation lui échappe et il bredouille quelques mots. Non, il n'est pas tombé si bas, lui. N'empêche qu'on le tient à l'écart, qu'on le laisse seul avec ses souvenirs. Solitude qui l'étouffe. Dès qu'il ouvre la bouche, « Père de Borger, ça date de l'ancien temps, votre histoire !» Il poussa un soupir découragé. Son corps se tasse comme une masse de glaise. Son visage aux chairs molles, aux traits inexpressifs et veules, s'abêtit davantage encore. D'une main tremblante, il porte le lèvre à ses lèvres. C'est un peu de chaleur qui se glisse dans ses veines. À la table voisine, des jeunes gens se vantent bruyamment de leurs aventures. Il les écoute. Il a été jeune. Il a été apprenti, lui aussi. Il travaillait rue du Pas de la Mule, chez un imprimeur. Dans ce temps-là, on faisait la journée de 10 heures. Fallait pas rechigner à l'ouvrage. À midi, il déjeunait au restaurant. Il expédiait son repas pour aller fumer une cigarette sur un banc de la place des Vosges, avec son camarade Michel, qui s'amusait à le faire rougir en lui parlant des femmes. Lui, oh, à peine s'il osait les yeux pour regarder une jeune fille. C'était loin, tout ça. L'apprentissage, la mort du père, le service. À son retour du régiment, il s'était fiancé. Une jolie fille, Marcel. Il la rencontrait souvent rue de Belleville. Il ne se souvenait plus très bien comment ils avaient fait connaissance, mais un dimanche après-midi, ils étaient sortis ensemble, elle et lui. Le père de Borget ferme les yeux. Il voit Marcel dans l'herbe, les bras nus, le visage rayonnant de jeunesse. Il l'avait épousée. Chaque soir, il rentrait vite du travail, tremblant d'admiration, de reconnaissance. Puis un jour, à ce souvenir, le père de Borget s'appuie plus lourdement sur la table. Aujourd'hui encore, le cœur lui fait mal, et il ne comprend pas davantage pourquoi Marcel l'a quitté. Sa vieille mère était venue habiter avec lui, et les années s'étaient succédées, mornes, coupées de fêtes inutiles. Les copains l'avaient entraîné dans la politique. On faisait de vrais 1er mai. Alors, enfin un jour, il rencontrait Marie Durtertre, une jeune veuve. Elle servait dans le restaurant où il dînait depuis la mort de sa mère. Il aimait la retrouver chaque soir. Une femme comme il lui en aurait fallu une, simple, dévouée. Il n'osait pas lui parler mariage. Il s'était enfin décidé, Marie Duterte avait dit oui. Ils s'étaient mis en ménage. Ils avaient cru joyeusement recommencer leur vie. Mais la même année, une fièvre typhoïde emportait Marie Duterte. Chaque dimanche, il allait fleurir la tombe où elle reposait. Seulement, les concessions ne durent que 5 ans. Un jour, il avait trouvé la fosse ouverte et il ne restait plus rien de Marie qu'un nom. Les lèvres du père de Borget ont un tremblement. Marie Duterte, comme elle était bonne, courageuse. Il lui semble que cette mort date d'hier. Et l'autre, la Marcel, qu'est-elle devenue, où court-elle? Marcel, Marie, sa mère, la vie. La vie. Non. D'une tape sur l'épaule, Saquet l'arrache à ses souvenirs. Oh, pense à ces petites histoires, père de Borget. Allez, voulez-vous boire quelque chose? Il accepte. La soirée s'éclaire enfin. Patron, un petit Bordeaux. Il est heureux d'être délivré de sa solitude. Sagement, appuyé sur sa canne, il regarde les autres jouer aux cartes. Parfois, il se permet de donner son avis. À votre place, Saquet, je demanderai la générale. Les joueurs l'applaudissent. Le vieux, quel culot! Malicieusement, il cligne de l'œil. Il a traîné longtemps de meublé en meublé avant de se fixer à l'hôtel du Nord. Il s'y trouve en famille. Et le couvreur sont aimables. Quand manque un manieur, on l'appelle. De jeunes typos lui demandent comment on travaillait de son temps. Pour ça, sur son métier, il peut donner des conseils, bien qu'il ait lâché la partie. Actuellement, il est manutentionnaire, une place qui lui permet tout juste de gagner sa vie. Mais faut pas qu'il se plaigne à 65 ans. Le père de Borgé regarde l'heure à sa montre. Il se fait tard et demain n'est pas jour de fête. Il voudrait cependant rester à sa place, sa canne bien calée entre les jambes, son mégot au coin des lèvres. Il est bien là. Seulement, la terrasse est presque vide, le quai est désert. On va fermer, dit le couvreur. Je me lève, patron. Tiens, ses jambes sont molles, incapables de le porter. Ah, le Bordeaux, peut-être. Allons donc, oh, s'il faut se priver de tout, alors autant crever. Il s'appuie sur sa canne et fait quelques pas. Attendez, je vais vous ouvrir la porte de l'escalier, crie le couvreur. Oh, vous dérangez pas, je m'étais un peu engourdi. Le père de Borgé habite au deuxième, c'est haut. Il s'arrête souvent pour souffler. Enfin, sa chambre. Il pousse un soupir de soulagement. Mais il regrette la boutique lumineuse, la vie des autres qu'il aidait à s'oublier. Tout est silencieux dans l'hôtel. Si seulement il pouvait dormir, ne plus sentir ces douleurs qui lui tenaillent le corps. Bientôt, il n'aura même plus la force de gagner les 4 sous qu'il lui faut pour vivre. Et alors quoi? L'asile? Renée était au terme de sa grossesse. Les vêtements en désordre, les pieds nus dans de mauvaises pantoufles, elle se traînait dans les couloirs de l'hôtel. Son état faisait rire. Renée, vous bouchez le passage. Les fortes chaleurs l'accablaient. Il ne lui restait rien de sa santé resplendissante. Le moindre effort faisait apparaître la sueur sur son visage. Le temps était loin où, sans débrider, elle lavait les 3 étages de l'hôtel. À peine si elle pouvait finir ses chambres aujourd'hui. Souvent, vaincue par la fatigue, elle s'étendait sur le lit d'un client et s'endormait. Sommeil troublé de cauchemar et qui ne la reposait guère. Le couvreur l'a chassée. Et elle longe les bords du canal avec son enfant dans les bras. Le cri des cochers la réveillait brusquement. Il faut que je me dépêche, balbutiait-elle. Mais les jambes pendantes, elle demeurait sur le bord du lit et bâillait. Un goût de colle lui empoisonnait la bouche. Elle passait la main sur son visage pour écarter ses mauvais rêves. Son regard tombait sur le mur tapissé de cartes postales. Des femmes nues, des photos comme celles qu'elle trouvait autrefois dans les poches de son amant. Elle pensait à Trimaud. Jamais il n'avait donné de ses nouvelles. Sans doute qu'il vivait maintenant avec une autre. C'était un faible. Elle se souvenait de lui sans jalousie, sans haine. Même elle lui savait gré d'avoir été l'occasion de sa venue à Paris. Un bruit de pas se faisait entendre. Elle ébauchait un mouvement pour se lever, mais elle retombait sans volonté. Renée, où êtes-vous, nom de Dieu, avec les clés? Pas un ouvrier qui rentrait du travail, déjà? Et les chambres pas balayées? S'il allait se plaindre au bureau? Elle retapait en hâte le lit, ramassait ses chiffons, son balai. Puis, soutenant son ventre, courait finir son ouvrage. À 6 heures, ses chambres étaient faites. Des clients grincheux pouvaient bien lui reprocher quelque négligence. L'essentiel était de contenter la patronne. Elle redescendait dans la boutique et quittait son tablier. Vous ne dînez pas? Demandait Louise. Non, madame, je n'ai pas faim. Elle se passait la main sur les yeux. J'ai surtout sommeil. et aussi vite que son état le lui permettait, elle gagnait sa chambre. La splendeur des soirs d'été, les bruits joyeux qui montaient du canal, la laissaient indifférente. Elle se jetait tout habillée sur son lit, enfonçait sa tête dans l'oreiller et fermait les yeux. À minuit, des jeunes gens qui rentraient du cinéma frappaient contre sa porte. « René, on couche ensemble ?» Elle se réveillait en sursaut, étonnée d'être vêtue, le corps endolori. Elle reconnaissait les voix. Il y avait le 24, le 16, le 17, des brutes auxquelles elle s'était donnée après l'abandon de Trimo. Elle avait honte et peur qu'on les entendît. Elle se levait à tâtons dans le noir. Elle pensait à ses derniers mois. Saké, puis les autres. Elle s'était laissée prendre à toutes les promesses. On avait profité de sa nonchalance. Elle se rappelait certains réveils où on la renvoyait comme une putain. Une seule vraie sympathie dans la maison, celle de sa patronne. Louise la protégeait, la consolait, lui pardonnait ses fautes, et René l'aimait dévotement. Avant de s'endormir, le couvreur jette un regard sur le tableau électrique. Une bonne invention, ces lampes témoins. On voit quels clients usent trop de lumière. Allons, tout le monde dort, on est tranquille jusqu'au petit jour. Il ferme la minuterie et tire à lui les couvertures. Tiens, René qui allume. À 1 heure, elle est folle. Oh, si elle n'a pas éteint dans 5 minutes, pense le couvreur, je lui coupe le courant. Il a un sommeil, mais il reste éveillé. Soudain, il se tresse, rageur. Non seulement René n'a pas encore éteint, mais voilà son voisin qui allume. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Il va couper le courant, puis rallumer à plusieurs reprises, faire des appels, comme il dit. Il n'a pas le temps. Une galopade ébranle l'escalier et on frappe à sa porte. « Patron, grimpez vite, René accouche !» Le couvreur saute du lit. Tout de même, René aurait pu mieux choisir son heure. Là-haut, c'est un remue-ménage, tout l'hôtel est déjà debout. « Oh, ces imbéciles croient qu'il y a le feu !» grogne le couvreur en enfilant son pantalon. Les locataires ont envahi la chambre de René. Ils font le cercle et, sans un mot, sans un geste, ils regardent la femme en travail. Le couvreur s'approche. Lui aussi, il hésite. « Vous êtes sûr que c'est bien ça ?» Sans répondre, René lève vers lui un visage contracté. Elle est ivre d'effroi, de souffrance. Le couvreur, perplexe, tourne la tête vers la porte. « Mais pourquoi Louise ne vient-elle pas ?» Elle arrive. « Faut la conduire à Saint-Louis, décide-t-elle, aidez-moi. Bernard, vous allez donner un coup de main à mon mari. » On sort René de son lit, on l'habille, mais le moindre mouvement aggrave ses douleurs. « Un peu de courage !» dit Louise. Elle lui met son propre manteau sur les épaules. « Maintenant, emmenez-la !» et se tournant vers son mari. « Tu me rapporteras le manteau !» René jette un regard désespéré autour d'elle, ses yeux s'emplissent de larmes. Puis elle se laisse entraîner. On la tient sous les bras, on l'aide à descendre l'escalier marche à marche. Enfin le grand air. Sur le quai, pas un taxi en vue. Le groupe hésite. « Allons à pied !» commande le couvreur. Ils suivent le canal désert. L'eau est noire, la plupart des réverbères sont éteints. René trébuche et gémit à chaque pas. Péniblement, il parcourt 50 mètres. Dans un souffle, elle demande qu'on s'arrête. Le couvreur voudrait l'encourager. « Encore un petit effort » finit-il par dire. René s'accroche à lui. Ils repartent. Une voiture les croise à toute vitesse. Bernard appelle, mais la voiture ne s'arrête pas. Enfin, l'avenue Richard rend. L'hôpital est au bout. René ferme les yeux. Qu'ils sont loin les soirs où elle suivait le canal avec Trimaud. Mais une douleur plus vive l'arrête, la plie en deux. Il lui semble qu'elle va mourir. Le couvreur, appuyé sur le comptoir, raconte à ses clients la sale nuit qu'il a passée. « Oh, faudrait pas que ce soit comme ça tous les jours, » grogne-t-il. « J'ai pas fermé l'œil. Oh, suis encore tout courbaturé. » Il étouffe un bâillement et s'assied sur son tabouret. Soudain, on l'appelle du dehors. « Patron, on repêche un macabre. Amenez-vous, on sera aux premières. » Vite, le coureur jette son tablier. Le père de Borger gardera la boutique. Des curieux sont déjà attroupés devant le bateau lavoir. Aidés de longues gaffes, deux mariniers cherchent à attirer vers la rive une masse noire qui flotte à la surface de l'eau. Le couvreur n'a jamais vu de noyé. « C'est ça leur macabre, pense-t-il, ce paquet de vieux chiffons ?» Julot, qui est de repêchage, saute dans une barque, donne quelques coups de rame vigoureux et saisit le noyé par un bras. Il a une grimace, puis il empoigne une jambe, soulève le corps et le fait passer tout entier dans la barque. « Tiens, c'est une poule, » dit-il. Sa voix envoyée par l'eau s'élève dans le silence. Il reprend les rames, arrive au quai. Des bras se tendent pour l'aider. Le couvreur s'est faufilé jusqu'au pied du brancard. On y dépose le cadavre ruisselant. Un visage de femme, jeune, tuméfiée, taché de vase, la bouche tordue, les yeux clos. Des cheveux gluants comme de la filasse mouillée. La méchante robe noire colle à des membres grêles. Une jeune fille, peut-être. Les souliers bâillent, un bas déchiré découvre un peu de chair. « Une suicidée ?» demande quelqu'un. « D'abord, répondit Julot, « oh, l'été, on en repêche tous les jours. »« Une gosse qu'on aura plaquée, » murmure le couvreur. Il pense à René. La vue de ce cadavre le rebute. Il se détourne. Une chanson qu'on chante chez la touche lui revient en tête. La peau de son ventre était si verte qu'on aurait dit des épinards. Deux hommes soulèvent le brancard. Le couvreur suit. Au poste vigie, une lumière d'aquarium l'impressionne. Mur grisâtre percé d'une seule fenêtre. Sur une étagère, des gants, des bottes de caoutchouc, des bocaux. Contre la porte, une affiche. Secours à donner en cas d'asphyxie. Dans un angle, deux réchauds à gaz. Il règne une odeur de vase et de phénol. Le couvreur, voûté, les bras ballants, considère le brancard posé à terre. Julot jette une toile d'emballage sur le cadavre. Rien à faire pour la ressusciter, cette gosse. Un à un, les curieux qui avaient envahi le poste sont partis. Le couvreur sort le dernier, suivi de Julot. Mais y'a pas de quoi se tourner les sangs, Mimi, là, allons prendre un petit verre. Devant le comptoir, Julot, débraillé, loquace, donne des détails sur son exploit. Là, bon, je croyais qu'elle allait se détacher en morceaux. Les membres lui tenaient plus au corps. Il boit, fait claquer sa langue et après un regard sur l'assistance. « Oh, il devait barboter depuis 8 jours entre les écluses, comme un sous-marin. Du sale travail, quoi. Heureusement qu'on touche une prime. » Et les bras tendus vers le canal, il ajoute. « Il y en a de la verbine là-dedans, des chats, des chiens, des fœtus. » Ça descend du bassin de la Villette avec les ordures ménagères. On me paierait pour manger une friture, observe le couvreur. Oh, le poisson est pas si mauvais. Il y a 2 ans, j'en ai ramassé plus de 20 livres, surtout de l'anguille. Vous savez, quand on a vidé le bassin pour chercher les fuites, on en a sorti des bricoles de ce dépotoir, des seaux, des godasses, de vieux pneus, même un liquage. Fallait nous voir barboter là-dedans avec nos grandes bottes. On avait de la vanne jusqu'aux genoux, et l'odeur. Oh, vous parlez d'une prise. Puis tout en roulant une cigarette, ce qu'il faudrait, c'est récurer le canal. Si ça continue, on pourra bientôt plus naviguer. Sans compter que l'été, au soleil, toute cette pourriture. Oh, quand on fait que passer, bien sûr, on réfléchit pas à tout ça. On regarde les péniches. Ça amuse l'œil, mais faut pas croire que tout soit rose pour les riverains.
Si le canal pouvait parler, déclare alors un client. Oh, il en connaît des histoires.
Julot a un mouvement d'épaule. Oh, si fait. Il repose son verre vide. Eh, hey, salut les gars, reste encore à porter la gosse à la morgue. Faut que j'aide à la glisser dans le fourgon. Le soir est venu. Le couvreur regarde devant lui le grand coude du canal. Un bruit de cascade monte de l'écluse. Le souvenir de la noyée ne l'a guère quitté de tout l'après-midi. Il y songe encore ce soir. Il pense aussi à René. « Je vais faire un tour, » dit-il à sa femme. Jamais il n'a eu de curiosité de se promener à la tombée du jour. Il traverse le pont tournant et remonte le quai. L'eau est calme. Les péniches, immobiles et pensues, sont allongées comme des bêtes. Il va lentement. Il contourne un homme étendu qui repose la tête appuyée sur un sac de ciment. Un clochard. L'asile du quai de Valmy est là-bas, sombre et nu comme une caserne. Des êtres marchent, les épaules repliées, la poitrine creuse. Des vieux qui triment, traînent leur existence comme le palefrein. Un à un, en courbant l'échine, ils franchissent la porte de l'asile. « Bof, ils sont tout de même mieux là-dedans que sous les ponts, » pense le couvreur. Sur un tas de sable, des amoureux se tiennent embrassés. Il surprend leurs baisers, leurs chuchotements. Il s'arrête et pousse un soupir. Des rôdeurs le frôlent. On entend de loin le métro passer sur le viaduc dont les piliers se perdent dans l'ombre. Des convois éblouissants rayent le ciel comme des comètes. Le couvreur se retourne. Il respire profondément l'odeur de son canal, tend l'oreille au bruit trouble qui monte des rues. Les lumières clignotent. D'un coup d'œil, il embrasse le quartier plongé dans la nuit et dont l'hôtel du Nord lui semble être le centre. Puis, il repart à petits pas.